Alors, on va prendre un passage dans 2 Chroniques, chapitres 18, 19 et 20. Enfin, on va survoler, bien sûr, on ne va pas tout lire. Ça concerne le roi Josaphat. Et qu'est-ce que vous savez du roi Josaphat? Est-ce que c'était un bon roi ou un mauvais roi? Il était roi de Juda, donc il siégeait à Jérusalem. Est-ce qu'il est plutôt bon ou mauvais? Plutôt. Vous avez plus de chance en disant mauvais que bon. Oui, c'est un bon roi en fait, mais qui a fait des alliances qu'il n'aurait pas dû faire. Donc on va voir un peu ses stratégies et les stratégies du roi Achab. Donc j'attends que les tremblements baissent un peu. Ça va baisser, vous inquiétez pas. Quoi? Peut-être tout à l'heure, oui, merci, merci. Donc Josaphat s'est allié, je dis, au roi Achab, qui était roi d'Israël. Et vous savez que le roi Achab était un roi mauvais, foncièrement mauvais. En plus, il était marié avec Jézabel, qui était une femme terrible. Et le problème du roi Josaphat, c'est qu'il était gentil. C'est un problème parfois. Et je pense que il voulait faire plaisir au roi d'Israël, il voulait faire plaisir à Achab, il voulait essayer de se lier d'amitié pour pas qu'il y ait de tension entre les deux. Ça partait d'un bon principe, mais ce n'était pas le principe de Dieu. Et c'est ça le drame avec les alliances qui font que parfois on fait des compromis, n'est-ce pas? On se met ensemble avec quelqu'un qui est contre Dieu. Et ça sera reproché au roi Josaphat. Donc Josaphat se fait alliance avec Achab, et Achab, il est dans une situation là au chapitre 18, autour de 18, 19 et 20, enfin 18, 19 de 2 Chroniques, il est dans une situation où il cherche à rentrer en guerre avec le pays de Syrie contre Damas. En fait, il aurait pu éviter la guerre, mais il a voulu récupérer une ville. Et dans son orgueil, il a voulu faire la guerre. Mais il avait une stratégie. Comme il était mauvais et comme il était contre Dieu, eh bien, il a pensé, je vais détourner l'attention de Dieu sur moi. Je vais détourner le jugement de Dieu. Et il a trouvé une stratégie qui consistait à mettre en prison les vrais prophètes. Et il y a un vrai prophète qui s'appelait Michée. On lit son histoire dans 2 Chroniques 18. Ce prophète Michée prêchait la vérité. Et c'est intéressant de voir que le sens de Michée veut dire qui est comme toi, ô Éternel? On chante ce chant, n'est-ce pas, qui est tiré de Exode, qui est comme toi, ô Éternel? Et ensuite on répond, nul n'est comme toi, ô Éternel. Donc, Michée, qui proclamait par son nom, qui est comme toi, ô Éternel, était mis en prison parce qu'il prêchait la vérité. Et Achab a appelé Josaphat pour faire la guerre contre le roi de Syrie, pardon. Il a appelé Josaphat. Josaphat aurait dû dire non, moi je ne me mêle pas. Mais Josaphat a dit, mon peuple, comme ton peuple, nous irons en guerre ensemble, on sera unis. Et avant de partir à la guerre, il a dit à Achab, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète qu'on peut consulter? Achab a dit, si, si, il y en a un, mais je ne l'aime pas du tout parce qu'il dit jamais rien de bon. Donc je l'ai mis en prison. C'était la première stratégie de Achab, de mettre en prison la parole de Dieu. Et peut-être c'est ça qui se passe dans nos vies actuellement. C'est qu'on a la parole de Dieu qui nous est prononcée en vérité. On sait que Dieu se révèle, on sait que Dieu parle, que Dieu dit des choses, mais on ne veut pas l'entendre, donc on le met en prison. On le met en prison parce qu'au moins là, on ne l'entend pas. Et quand on ne l'entend pas, on se sent bien. La conscience n'est pas troublée. Le sentiment de faire mal n'est pas évoqué, n'est pas ressenti. Et donc, on a l'impression que tout va bien. Mais ce n'est pas parce qu'on fait taire la parole de Dieu que la parole de Dieu ne se manifeste pas, ou que la parole de Dieu se tait. Ce n'est pas parce qu'on étouffe ce que Dieu nous dit que Dieu ne dit pas quelque chose. Parce que Dieu parle, et il parle par Jésus-Christ maintenant. Mais peut-être on est comme Achab, à mettre en prison la voix de Dieu, la parole de Dieu. C'est la première stratégie. Josaphat lui dit, non, 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 laisse Michée parler. Et Michée prophétise rien de bon contre cette guerre. Il dit à Achab qu'il allait mourir. Mais on pense que Achab quand même aurait la raison de se dire, mais voilà, j'ai mis Michée en prison parce qu'il dit la vérité, parce qu'il prophétise des vérités sur moi. Donc s'il a prononcé le fait que j'allais mourir dans ce combat, c'est que je vais mourir. Mais en fait, il avait une autre stratégie, une deuxième stratégie. La première stratégie, c'était de mettre la parole de Dieu en prison. Et la deuxième stratégie, c'est de se déguiser au combat. Il a dit à Josaphat, son ami, entre guillemets, « Toi, tu ne te déguises pas, tu restes avec tes habits royaux, et moi, je vais aller au combat et je vais me déguiser. » C'était très gentil comme amitié, n'est-ce pas? Il savait très bien que Josaphat serait pris pour Achab. Et donc, la deuxième stratégie de Achab, c'était de se déguiser. Et je me demande si ce n'est pas notre stratégie aussi parfois, de dire « je vais me déguiser pour que la parole de Dieu ne me touche pas. Je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis réellement. La parole de Dieu prophétise des choses clairement sur moi, je sais que je dois répondre à Dieu et je sais qu'un jour je devrais répondre à Dieu. Un jour je vais devoir comparaître devant Dieu et lui expliquer pourquoi je n'ai pas accepté le message de l'Évangile, pas le message prêché dans une église, mais le message de la parole de Dieu dans l'Évangile. Donc on a mis en prison la voix de Dieu et on a une deuxième stratégie, c'est que si jamais elle se prononce, on va se déguiser. Et on se déguise. On se déguise pour ne pas être touché par l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et donc, il est allé au combat et le roi de Syrie avait dit « Ne touchez à personne sauf au roi. Il faut toucher seulement Achab. » Et bien sûr, pauvre Josaphat, il avait l'air d'être comme Achab parce qu'il était le seul qui était en habits royaux, n'est-ce pas? Et donc, quand les Syriens s'approchent de Josaphat, ils crient. Et j'aime bien ça. Parce que les gens disent quelquefois, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas prier. Je ne sais pas quoi dire dans mes prières, je ne sais pas quoi faire. Mais criez. Si vous êtes dans le désespoir, vous criez. On fait ça depuis qu'on est enfant. On fait ça d'ailleurs depuis qu'on est. Quand on est, on crie. Et heureusement, c'est ça qui nous sauve. C'est la même chose. Josaphat ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas faire une prière, il ne pouvait pas faire une demande polie, il ne pouvait pas réciter un Notre Père. Premièrement, ce n'était pas encore donné, bien sûr, mais il ne pouvait pas faire ça. Il pouvait juste crier. Et c'est la différence entre Achab et Josaphat. Josaphat savait que la parole de Dieu allait se réaliser, mais il a pensé qu'il serait jugé par Dieu aussi, en même temps qu'Achab, et donc il a crié. Est-ce que ce matin vous êtes prêt à crier? Est-ce que je suis prêt à crier à Dieu pour que le jugement de Dieu prononcé par celui qui porte le nom de « Y a-t-il un autre que l'Éternel ?» Eh bien, pour que ce jugement ne m'atteigne pas, est-ce que je suis prêt à crier à Dieu? Et donc il a simplement crié. C'est une des plus belles prières de la Bible. À un autre moment, on verra qu'il a prié, il a prononcé des phrases, mais il y a des moments où on ne peut pas parler, et on a juste besoin de crier. Et là, ils ont vu qu'il criait, et je ne sais pas ce qu'il y avait dans son cri, mais je crois que c'est le Seigneur qui est intervenu. Ils se sont éloignés, les Syriens. Ils ne l'ont pas touché, ils ont dit, c'est pas le roi Achab en tout cas. Et vous savez qu'un Syrien a tiré au hasard avec une flèche. C'est écrit au hasard. C'est rare dans la Bible, mais c'est écrit au hasard. Il y a deux ou trois fois, je crois, où c'est écrit hasard dans la Bible. Il a tiré au hasard une flèche et la flèche a touché Achab là où il y avait un défaut dans la cuirasse. Et quelquefois, on pense que si on se déguise, on ne sera pas touché. On pense qu'en se déguisant, en mettant un masque, pas anti-Covid, mais en fait, ça ressemble quand même un peu, eh bien, on va être protégé. On ne va pas être touché. Mais il y a quelqu'un qui va tirer au hasard et ça va nous toucher au défaut de la cuirasse. Ce que Achab espérait, c'est que il pouvait tromper Dieu, n'est-ce pas? Dieu avait dit qu'il mourrait et il avait cette idée dans la tête. Oui, mais si c'est Josaphat qui mourrait à ma place, ça serait mieux. Josaphat, ça veut dire Dieu juge. Et ce que Achab voulait, c'est que le jugement de Dieu soit mis à mort pour que lui soit épargné. Et il voulait faire sa volonté, sa désobéissance, en disant c'est le jugement de Dieu qui va être mis à mort. C'est celui qui porte le nom de Dieu juge. Mais le jugement de Dieu a été mis à mort sur la croix du calvaire et ce n'était pas une flèche. Ce n'était pas une flèche qui a été tirée au hasard, c'est les clous qui ont transpercé le corps de Jésus sur la croix, qui était là pour enlever la condamnation, le jugement de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc la première stratégie, c'était d'enfermer. Combien de gens enferment la parole de Dieu? Quand on prêche l'évangile maintenant, les gens disent non, non, ça c'est n'importe quoi. On peut plus, on n'a plus le droit, on empêche, on le met en prison. Vous n'avez plus le droit de parler de Dieu en toute liberté sur votre lieu de travail. Vous n'avez pas le droit de faire état du jugement de Dieu. Dans les églises, on tait maintenant la question du jugement. On n'en parle pas, on le met en prison parce qu'on a trop peur que ça nous condamne. Et combien de gens font ça? Combien de gens se tourne contre Dieu et le mettre en prison. Et l'autre stratégie, c'est de dire que si jamais il parle de sa prison, eh bien je me déguiserai pour pas que ça me touche. Un des plus grands déguisements, c'est la religion. C'est les bonnes actions, c'est les bonnes œuvres. C'est faire des choses qui semblent être de l'amour pour les autres, en disant, mais voilà, mais moi j'ai aimé mon prochain. J'ai fait du bien, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai été très important pour telle personne et telle personne. Et on pense que pour cela, ou grâce à ce qu'on a fait à ce déguisement, le jugement de Dieu ne va pas nous toucher. Mais ce n'est pas le cas. Parce que quelqu'un tirera au hasard et vous serez touché par le jugement de Dieu. C'est la parole qui le dit, c'est pas une théorie, c'est pas une éventualité, c'est la parole de Dieu entière, l'Ancien Testament et le Nouveau qui le disent. Josaphat donc a été épargné totalement, mais Josaphat avait des comptes à rendre à Dieu. Le prophète a été envoyé, c'est le début du chapitre 19, le prophète a été envoyé devant lui. Et il lui dit, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Il a eu le jugement de Dieu, la parole qui lui a été prononcée contre lui. Ce n'est plus contre Achab cette fois-ci. Achab était mort. Il lui a dit, est-ce que tu aimes ceux qui haïssent l'Éternel? Et quelquefois, nos alliances font qu'on est attaché à des systèmes qui haïssent l'Éternel. On côtoie, on se lie d'amitié avec des hommes et des femmes qui ont la haine de l'Éternel. Et là, le prophète est envoyé vers Josaphat. en disant « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Mais l'attitude de Josaphat, c'était de se repentir, et c'est la différence avec Akab. Quand Dieu a parlé à Akab, Akab s'est fâché, il a dit « On n'aurait jamais dû laisser Michée sortir de sa prison, parce qu'au moins quand il est en prison, je ne l'entends pas. » Vous savez, maintenant, il y a des systèmes pour avoir de la musique tout le temps dans les oreilles. Il y a Internet, il y a des systèmes qui font qu'on peut avoir tout le temps l'attention détachée de Dieu. Dieu est mis en prison. Il n'y a pas de moment pour qu'il puisse nous parler. Ou bien quand il commence à nous parler, on fait autre chose, n'est-ce pas? On remplit l'espace, on remplit le temps. Mais Dieu parle. Et ce matin, s'il vous parle, ne laissez pas, ne le mettez pas en prison. Et s'il vous parle concernant votre état, ne faites pas la même erreur de vous déguiser en disant « mais je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de noble ». S'il vous parle, faites comme Josaphat qui s'est repenti. Il est allé à Jérusalem, la ville où il était roi, et il a incité le peuple à jeûner et à chercher Dieu. Et en fait, il s'est trouvé lui-même en conflit. Il s'est trouvé en guerre. Il ne pouvait plus appeler Akab pour l'aider, parce que Akab était mort. Mais il s'est trouvé dans une situation où il y avait plusieurs rois qui se sont ligués pour attaquer Jérusalem. Et quelquefois, on pense, oh, si je me donne au Seigneur, eh bien, j'aurai la tranquillité. Ou bien, je veux me donner au Seigneur pour la paix intérieure. Je veux me donner au Seigneur pour ne plus avoir des conflits. Eh bien, lui, il s'est repenti, il a incité le peuple à revenir vers l'Éternel. Il a rappelé à Dieu que la ville de Jérusalem et la maison de Dieu à Jérusalem, c'était un endroit où on pouvait se réfugier et on pouvait invoquer l'Éternel. Mais il a eu tout de suite après la guerre qui lui était déclarée. Mais l'attitude était différente. Au lieu de mettre Dieu de côté, il a crié à Dieu. Il a dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et peut-être aujourd'hui, il y a dans vos vies un conflit très gros, quelque chose qui vous condamne, quelque chose qui vous déclare la guerre. Vous ne pouvez pas être en paix. Je me rappelle dans ma vie d'adolescent, quand je savais que je ne pouvais pas avoir la paix. Parce que j'étais pour Dieu 100%. Mais j'avais des pressions qui m'attiraient ailleurs que vers Dieu. Et je savais qu'il y avait cette guerre. Et c'est quelqu'un, des années après, qui a prié pour moi et qui m'a dit « Regarde à l'Éternel. » Au lieu de regarder à tes problèmes, tes conflits intérieurs, regarde à l'Éternel. Et cette prière, Josaphat l'a faite et il avait compris que Dieu répondait, que Dieu prend soin, que Dieu protège. Et vous savez, c'est le plus beau témoignage de ceux qui connaissent le Seigneur. C'est de dire que Dieu est bon, que Dieu protège, que Dieu garde, que Dieu délivre dans les situations de conflit. Il ne pouvait rien faire. Il était submergé. Ce n'était pas un très bon guerrier, vraisemblablement, puisqu'il a crié sous son char quand il s'est fait attaquer, ce qui était un déshonneur, d'une certaine façon, une humiliation. Et là, il a crié à Dieu avant. Est-ce que ce matin, vous êtes prête à crier à Dieu, à dire « Seigneur, moi, je ne sais pas quoi faire ». Pas seulement pour les situations matérielles. Combien on crie à Dieu pour les situations matérielles, pour les situations physiques, pour les situations sociales, pour les situations de relations de voisinage, de relations avec le patron, etc. Les gens sont en train de crier à Dieu pour ça. Mais en priorité, est-ce que vous criez à Dieu pour votre état? En disant, Seigneur, j'ai des conflits à l'intérieur. J'ai des choses qui ne vont pas, qui ont déclaré la guerre à ma vie. et je voudrais regarder vers toi. En tout cas, il a dit, Seigneur, il a dit à l'Éternel, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Et si vous lisez le chapitre 20 de 2 Chroniques, c'est extraordinaire ce que Dieu dit. Et ce n'est pas toujours le cas. On l'a bien vu, entendu dans le message la semaine dernière, et c'est juste que ce n'est pas toujours le cas. Mais là, c'était vraiment extraordinaire. Dieu a dit, demain, tenez-vous prêts, levez-vous et tenez-vous prêts. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'était extraordinaire, ils n'ont pas dû combattre. Trois grandes armées qui se dressent contre Josaphat. Il panique, mais Dieu lui dit, tu n'as rien à faire dans cette affaire. Juste regarde, regarde. Et je pense pouvoir dire que c'est toujours le cas quand il s'agit de la délivrance du péché. Quand tu cries dans le désespoir comme Josaphat faisait, eh bien Dieu te délivre sans que tu aies rien à faire. On est en train de dire aux gens qui ont des problèmes spirituels quelquefois, mais il faut que tu fasses des efforts. On dit aux gens qui sont malades dans leur volonté, qui n'arrivent pas à avoir la volonté d'arrêter telle ou telle habitude, on leur dit, il faut que tu veuilles arrêter, il faut vouloir arrêter, mais ils ne peuvent pas. Comment voulez-vous que le vouloir vienne chez quelqu'un spontanément? Ah tiens, je veux. On est en train de mettre les gens sous un joug terrible. La religion met sous un joug parce que c'est un déguisement, la religion. Oui, si vous vous déguisez ce matin en religieux, vous devez faire tous les efforts et vous serez quand même atteint par une flèche. Mais si vous voulez un combat où c'est l'Éternel qui combat pour vous, parce que il a été dit ça à Josaphat, que l'Éternel combattra pour vous. Et sur le plan spirituel, c'est l'Éternel qui combat. Josaphat veut dire Dieu juge, mais là c'est Dieu qui fait grâce. Et mes amis, on a besoin que le jugement de Dieu soit remplacé par la grâce de Dieu. Il a fallu que Jésus naisse, comme dit Galates chapitre 4, naisse d'une femme, naisse sous la loi, pour qu'il puisse nous donner la possibilité de naître de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez rien à faire dans ce combat. Si tu commences à essayer à aider Dieu à te délivrer de tels problèmes, j'ai vu des gens qui ont pris des grandes positions solennelles, j'arrête aujourd'hui au nom de Jésus, etc. Mais il n'y avait pas l'intervention de Dieu. Ce que Dieu attendait, c'est que ces gens crient vers Dieu en disant, nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Est-ce que c'est votre prière ce matin? Est-ce que c'est votre prière que les yeux de votre cœur soient tournés vers lui et vous puissiez voir la délivrance? En tout cas, il a vu la délivrance de l'Éternel. Les armées se sont, ils étaient trois, je crois, trois armées, elles se sont battues entre elles. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Josaphat, en version moderne, dirait, j'ai trois conflits dans ma vie. J'arrive pas à m'en sortir d'un, ni du deuxième, ni du troisième, et là, ils sont à trois. Et puis le Seigneur dit, demain, lève-toi et tu verras la délivrance que l'Éternel t'accorde. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Et quand tu te lèves le lendemain matin, tu vois tes trois conflits qui se sont entretués et toi, tu as juste à voir les corps des morts sur le champ de bataille. C'est ça qu'on a besoin de voir dans les églises. Et parce qu'on ne voit pas ça, on instaure dans l'église des systèmes de relations d'aide, des systèmes d'assistance, de suivi de personnes. Parce que les gens ne veulent pas suivre le Christ, ils veulent être suivis par le Christ. Et c'est ce problème de soumission qui fait qu'on a besoin d'un suivi psychologique dans les églises, qu'on a besoin d'un suivi moral, qu'on a besoin d'un suivi des gens. Enfin, c'est pas qu'on en a besoin, c'est parce qu'on est tellement pauvre. Mais si on crie à l'Éternel, il répond. Et il nous dit, tu n'as pas à combattre, ce n'est pas le genre de combat pour lequel tu dois t'investir, t'engager. C'est moi qui combattrai pour toi. Évidemment, Josaphat, quand il voit la victoire, ils sont extrêmement touchés, ils sont extrêmement reconnaissants envers Dieu, tout le peuple. Et Josaphat, il se tourne vers l'Éternel, il le loue, il le remercie, ils sont heureux. Mais il y a un mais. Après, il va faire alliance avec le roi d'Israël qui suit Akab, le fils d'Akab. Il va faire une autre alliance. Ils vont construire des bateaux, etc. Et Dieu lui avertit par un prophète, parce que tu as fait à nouveau alliance, je vais détruire toute ton œuvre. C'est Dieu qui juge. Josaphat le savait, il portait ce nom. Dieu juge. Partout où il allait, il dit, quand on disait Josaphat, ça voulait dire Dieu juge. Et Dieu lui a fait grâce avant le Nouveau Testament. Dieu lui a fait grâce, mais il a foulé aux pieds la grâce en faisant alliance. Dieu l'avait averti que son alliance avec Akab était mauvaise. Et au lieu de se repentir définitivement, il a recommencé avec son fils. Ce qui est la conséquence, c'est les bateaux qui ont été détruits, mais c'était rien pour un roi qui était très riche. Pire que ça. Après sa mort, son fils aîné a tué tous ses frères. Et c'est le contraire de la croix. Le Fils de Dieu est mort pour donner la vie. Le Fils aîné de Dieu, Jésus-Christ, est mort pour donner la vie. Tandis que le fils de Josaphat a tué tous les frères pour garder la vie. On voit la différence entre le cœur de Christ et le cœur de l'homme, qu'on voit très clairement dans le terrorisme, tuer pour conserver la vie ou pour conserver une idéologie, alors que Christ s'est donné pour mourir pour ses frères, pour que ses frères aient la vie. Et ces enfants ont représenté malheureusement ce qui est l'antithèse de Christ, l'antéchrist. Et le système dans lequel on vit, système social, le système occidental, c'est un système qui est comme ça. Où on fait mourir les autres pour avoir la vie nous-mêmes. Et il y a besoin d'une repentance. Il y a besoin que quelqu'un crie à l'Éternel. Peut-être même seulement une personne en France qui prend ça au sérieux et qui crie à l'Éternel, qui dit « Nous savons que faire, nous ne savons pas quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez faire contre les conflits? Qu'est-ce que vous voulez faire contre le Covid? Qu'est-ce que vous voulez faire contre toutes les puissances qui se mettent en alliance contre le nom de l'Éternel ?» Eh bien, peut-être le Seigneur attend que quelqu'un disent, moi je vais crier vers Dieu. Je vais tourner les regards vers le Christ ressuscité. Et je vais faire appel non pas à Dieu qui juge, mais à Dieu qui fait grâce. Vous savez quel prénom veut dire Dieu fait grâce, c'est Jean. Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jean et Jean, et bien sûr l'apôtre Jean aussi, c'est Jean. C'est pour ça que quand on a dit à la maman de Jean-Baptiste « Comment tu veux l'appeler ?», les gens posaient la question, mais ils avaient déjà la réponse pour elle. Elle a dit « Son nom sera Jean ». Ils ont dit « Mais non, c'est Zacharie qu'il faut l'appeler. » Zacharie, ça veut dire « Dieu se souvient ». Et il a fallu que le père intervienne, qu'il retrouve la voix de muet qu'il était, pour pouvoir dire non, c'est son nom, ce sera Jean, celui qui fait grâce. Parce que Jean-Baptiste annonçait la venue de celui qui fait grâce. Et ce matin, on a besoin de la grâce de Dieu, chacun. Chacun d'entre nous, on a besoin de la grâce. Et la grâce de Dieu, on l'obtient par l'humilité, par le fait de prier, de crier à Dieu, de demander qu'il nous qu'ils combattent pour nous dans les affaires où on a des conflits. Mais souvent, on préfère se déguiser ou mettre en prison. Combien de fois j'ai mis moi-même la voix de Dieu en prison parce que ça me dérangeait. Ça n'a jamais été une bénédiction. Ça n'a jamais bien fini. Les seules fois où Dieu a pu parler et agir dans ma vie sans que j'intervienne, c'est quand j'ai laissé Dieu à l'œuvre. Alors ce matin, qu'on le fasse au lieu de se déguiser, au lieu de le mettre au silence, qu'on puisse crier à l'Éternel. Amen. Alors on va juste prier. Et dans nos cœurs, si vous voulez répondre dans vos cœurs, vous criez à Dieu. Si ça doit être à voix haute, vous le faites à voix haute. Si ça doit être à voix basse, Dieu entend. Mais donnez-vous à Dieu ce matin. Si vous ne donnez pas à Dieu, c'est comme si vous mettez sa voix en prison, parce qu'il parle très clairement. Vous avez lu l'Évangile, vous avez lu la parole de Dieu, vous savez ce que Dieu attend de vous. Ou est-ce que vous voulez continuer à vous déguiser pour ne pas être touché? Seigneur, pardonne-nous pour qui nous sommes, pour notre immense faiblesse. Seigneur, tu permets que je sois faible moi-même ce matin et c'est ta grâce. Parce qu'il n'y a que toi qui combats. Ce n'est pas dans la force du discours, ce n'est pas dans la force de la personnalité, ce n'est pas dans la force de l'éloquence, c'est dans la force de l'Esprit de Dieu. Zacharie, le prophète, disait « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. » Et ce matin, que l'Esprit de Dieu nous convainc chacun de besoin de tourner vers Dieu, de crier de toutes nos forces à Dieu pour demander son secours, de demander qu'il nous pardonne nos alliances étrangères, nos alliances avec ceux qui haïssent l'Éternel, qui nous libère du jugement, qui nous libère du déguisement ou de la mise en prison de la parole de Dieu. Et que Seigneur, ce matin, tu fasses ton œuvre, une œuvre de victoire éternelle. Amen.